Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h midi. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait vraiment du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Elle est capable de faire la route des vins en restant confinée chez elle, l'inventive Christine Béroux.
Eh oui, bonjour, bonjour à tous.
À défaut de trouver un remède, il a mis au point une technique contre le Covid-19 et cassé la gueule le pragmatique Mickaël Quiroga.
On sait jamais, ça peut marcher, hein. Bonjour à toutes et à tous.
Quand il a appris que les coiffeurs pourraient rouvrir dès le 11 mai, il s'est dit super si enfin j'essayais le décoiffant ménage.
C'est promis, je vais découvrir ce que c'est qu'un salon de coiffure. Bonjour Anne, bonjour la France. Attention, elle est contagieuse, vous allez tous attraper sa bonne humeur. Elle a le virus de l'humour, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, deux auditeurs joueront avec nous à deviner qui je suis pour tenter de gagner le cuiseur vapeur Steam Up de Moulinex. Notre premier invité sera Frédéric Lénaire, PDG de l'entreprise Lénaire Cordier, spécialisé dans le prêt-à-porter, qui s'est lancé dans la fabrication de blouses et de masques de protection. Nous aurons ensuite au téléphone Catherine Solano, médecin sexologue, qui vient de sortir le grand livre de la puberté.
Ah, super. J'ai plein de questions.
C'est pour Bénache.
Et qui nous donnera des conseils pour entretenir le désir quand on est confiné en couple. Et enfin, nous recevrons Arthur qui présente chaque jour Show Must Go Home à 16h30 sur les réseaux sociaux.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors, qu'en France, le gouvernement a annoncé travailler sur l'application de traçage numérique Stop Covid, ouais, qui alerterait les utilisateurs s'ils côtoient un malade du coronavirus. En Italie, la piste des bracelets électroniques pour les personnes âgées sera à l'étude. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez aimé suivre à la trace? Est-ce que vous avez déjà suivi quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà suivi Mickaël?
Elle est trop bizarre, votre question. J'ai déjà suivi des
c'est
gens.
Des questions de confinés. C'est des questions qu'on ne se pose pas en temps normal. Et on n'est pas dans une période normale. Donc voilà.
Bon, ben voilà. Ben moi, à part la police ou les vigiles dans les supermarchés, on m'a jamais suivi. Non. En plus, vous imaginez nos papilles masquées avec des gants, un bracelet électronique à la cheville. La seule différence qu'il y aurait entre un braqueur et un papy, c'est le déambulateur, en fait. Et en plus, quand ils rentrent à l'EHPAD, il y a la famille qui les attend au parloir. Je me demande si les anciens sont en confinement ou en préventive.
C'est vrai que ouais, c'est très difficile pour les personnes, ouais, âgées en ce moment. Ben H.
Ouais, moi j'ai été suivi par une ex. Elle m'attendait au travail, devant chez moi, même chez des amis. Des fois, c'est allé super loin cette histoire. Ça a même fini par un dépôt de plainte.
Waouh.
Ah bon, vous avez fini par porter plainte?
Non, c'est elle qui a porté plainte. En fait, si elle me suivait, c'est parce que je lui devais pas mal d'argent. Et bah, du coup, à un moment, elle a craqué. Quoi.
Mais quelle honte.
Ah là là.
Christine?
Alors oui, moi vous vous rappelez du docteur Benjamin Rossi à qui j'ai fait une déclaration la semaine dernière?
Voilà, et bien,
il m'a suivi.
Il vous a suivi?
Non, il a bien suivi la chronique parce qu'il ne m'a pas accepté en ami sur Facebook. Voilà, à ma grosse déception. Maintenant quand il tape son nom dans Google, il tombe sur ma chronique, alors le pauvre, c'est pas
Nash, vous avez pris une nouvelle résolution pour l'après-confinement?
Mais Guten Tag, Anne Romanoff, Guten Tag à tous. On est tous à penser à notre déconfinement. Et moi, après avoir lu les articles équivoques dans le JDD ou encore dans Libération cette semaine, ma décision est prise, je plaque tout pour tenter le pari de l'immigration vers un grand pays que j'ai trop longtemps ignoré pour d'historiques et sombres raisons familiales, l'Allemagne. Cette immense nation européenne célèbre autant pour sa bière et ses saucisses que pour son nombre de lits en réanimation. Mais l'Allemagne, c'est aussi une culture millénaire, une architecture riche et pas moins de 300 000 tests par semaine. Et quand on pense Allemagne, on pense surtout à son imposante industrie automobile et à ses hôpitaux non surchargés, pouvant supporter par exemple une épidémie. Moi, là d'où je viens, ok, on a Peugeot et des jolis musées, mais en ce moment, si je devais faire une crise d'asthme, je dis juste que je préférerais la faire en Bavière. Je ne sais pas ce qui me fait le plus rêver avec ce pays en ce moment, le fait de participer à la traditionnelle fête de la bière, ou si c'est savoir que je peux placer ma grand-mère dans un centre spécialisé sans qu'elle ne meure d'un virus faute de moyens suffisants. Je ne saurais pas vous dire, je crois que j'aime autant la bière que ma grand-mère. Bref, vous l'avez compris, ich bin décidé, ich bin motivé, et comme vous l'entendez, ich bin en train de suivre une formation baptisée Basique Germanique à destination du migrant. Je connais les premières phrases essentielles, ich bin Ben H, und komme aus ein Land in Krieg, je suis Ben H et je viens d'un pays en guerre. guerre. Ich bitte um Asyl und eine Maske. Je demande l'asile ainsi qu'un masque, s'il vous plaît. Et comme vous l'entendez à mon accent, au collège, j'ai pris espagnol. Pour rattraper mon retard niveau langue d'ici au 11 mai, je me refais l'intégrale des séries d'Eric, Le Renard et Papa Schultz en version originale. Je n'ai jamais aussi bien dormi. Oui, depuis lundi, c'est une lubie. Je voudrais être allemand. Et je sais très bien pourquoi. Parce que si j'étais allemand, je pourrais aller me faire le test Covid et d'ici quelques jours, je pourrais rencontrer ma magnifique petite nièce qui est née ce lundi. Oh. Sauf que moi, ainsi que ma nièce, on est nés de ce côté du Rhin. Du coup, je vais devoir patienter plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour lui dire à quel point je suis heureux d'être son tonton, au point même de penser à devenir teuton. Et quand je lui dirai dans quelques années cette phrase que tous les tontons prononcent à leur neveu ou nièce, « Tu sais ma chérie, que je te connais depuis que tu es née », eh bien ça ne sera pas vrai. Alors June, si ta maman m'écoute dans sa chambre de maternité, ne grandis pas trop vite ma chérie, j'ai encore pas mal de Papa Schultz à regarder, et en attendant de te rencontrer, willkommen dans ce monde de dingue, petit bébé.
Oh, bravo.
Oh, vous m'avez fait pleurer. Vous faites toujours des chroniques qui font pleurer en ce moment. Mais c'est une très belle chronique. Emma, on souhaite bienvenue à June, bienvenue, en effet, dans ce monde de dingue, la fille de votre sœur. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Ben H, Mickaël Quiroga et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner le cuiseur vapeur Steam Up de Moulinex en jouant notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Christine Béroux, Mickaël Quiroga et Ben H. Le tonton, le récent tonton depuis 3 jours. Donc vous avez quand même eu votre sœur au téléphone. L'accouchement s'est bien passé malgré les circonstances.
Tout s'est excessivement bien passé. J'ai eu la chance, vu qu'en fait personne ne peut aller la voir, et ben ça se passe par FaceTime. Et du coup j'ai pu la voir seule. J'ai pu être seule avec ma sœur et ma nièce, qui ne seraient pas arrivées si on était toute la famille dans la chambre d'hôpital. Donc c'est un des bons côtés, on va dire, du confinement, s'il faut en trouver.
Ah ouais. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Ben H ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff. Devinez.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. En cette période particulière, le groupe SEB, référence mondiale du petit équipement domestique, continue de vous accompagner pour faciliter votre quotidien avec le cuiseur vapeur Steam Up de Moulinex, fabriqué en Bourgogne à Is-sur-Til. Ce produit made in France révolutionne la cuisine à vapeur. Grâce à sa technologie innovante et brevetée, il vous permet de cuire vos aliments en mélangeant tous vos ingrédients, y compris les sauces, dans un seul plat pour des recettes gourmandes et savoureuses. On joue d'abord avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour Anne. Bonjour tout le monde.
Bonjour Aurélie. Salut. Bonjour.
Alors Aurélie, vous avez 37 ans, vous habitez à Longage en Haute-Garonne et vous êtes agent Enedis chargé d'affaires en raccordement.
Oui, c'est ça.
Et vous avez un télétravail très difficile. Vous dites que vous avez deux enfants de 9 ans et 11 ans.
Oui, c'est ça. C'est pas facile de gérer les deux.
En même temps que vous travaillez.
Oui, voilà. C'est pas évident, ouais.
Et alors, comment vous faites ?
D'ailleurs, bravo à tous les enseignants, hein, parce que... Chapeau.
Les parents, ils comprennent en ce moment.
Ah oui, ouais, c'est clair.
Bon, et là, vous avez repris le sport ? Vous faites du trampoline tous les jours ?
Ouais, j'essaie. Bon, là, il pleut sur Toulouse, mais ouais, j'ai repris le sport et je fais des séances sportives le matin.
De trampoline ?
Ah, ça, c'est bien.
Ouais.
Vous avez un trampoline chez vous ?
Super.
Oui, alors j'habite vers Toulouse, alors on a un grand jardin avec un grand trampoline. Ouais.
Ouais.
Ah, ça défoule en plus. Super. Quand les enfants vous énervent, le trampoline.
Ouais, de... mais ça fait du bien au moral aussi avant le travail.
Et ça muscle ça de faire du trampoline ?
Ah oui, ben après oui, après je fais de la gymnastique, alors oui, ça muscle.
Ah oui, et vous avez un amoureux qui n'est...
N'allez pas acheter un trampoline en appartement. Ça
bah déjà que je peux... Il est grand, hein, je vous avoue.
Non mais moi je peux plus bouger dans mon salon parce qu'en fait j'ai le vélo qui est vraiment très très gros et j'ai acheté un truc de salle de sport en fait. J'ai la table à repasser que j'ai sortie parce que comme il me reste encore du repassage et j'ai la chaise longue qui ne rentre pas sur mon balcon donc en fait on dirait un dépôt-vente en fait.
Un dépôt-vente chez elle.
Aurélie, vous avez un amoureux, vous n'êtes pas confinée avec lui ? Parce que comment ça se fait ?
Eh oui, malheureusement.
Ouais.
On n'habite pas à côté, donc voilà, on n'est pas confinés ensemble.
C'est quoi qui l'a repoussé ? C'est les enfants de 9 et 11 ans ?
Non, il a un petit garçon aussi, mais bon, voilà, c'est mieux comme ça pour l'instant, mais bon.
Et ça fait un an, il vous manque, vous le parlez par Skype, vous appelez?
Non,
vous...
Il ne ment pas, il est juste obligé de faire du trampoline tous les jours.
Non, je parle sur Messenger, au moins 4 fois par jour. Hein.
Ah, c'est bien.
Ah, c'est l'amour.
C'est bien, c'est super. Alors dites-lui un petit coucou, si vous l'aimez, dites-lui un petit coucou.
Oui, coucou Nico, je t'aime et vivement qu'on se retrouve.
Aurélie, vous prenez la liste 1 ou liste 2?
Allez, liste 1.
Et vous jouez avec qui?
Avec vous.
Oh là,
Elle appelle pas pour gagner au moins, ça fait plaisir.
Top, c'est parti.
Alors, c'est un animateur télé, il a des lunettes, il présente une émission qui s'appelle Les Grosses Têtes sur une radio concurrente et On n'est pas couché sur France 2. Un animateur télé. Oui, son prénom, c'est bien, très bien. C'est un grand DJ, il a fait un concert en plein air, vous savez, très à la mode, Ibiza. Ouais, très bien. C'était un très grand réalisateur de la nouvelle vague, il a tourné avec Fanny Ardant, le dernier métro, vous savez.
Non,
c'est un réalisateur.
Pas
un...
Oui.
C'est une Miss France qui présente des émissions sur France 3, une ancienne Miss France très sympathique.
Élodie.
Une autre.
Désolée.
Ça vous avait pris
deux bonnes réponses.
Mais vous excusez pas, vous avez choisi Anne.
Voilà. C'est déjà bien de faire deux bonnes réponses.
Ah, c'est compliqué.
Vous n'avez pas trouvé François Truffaut. Vous n'avez c'était peut-être un petit peu compliqué parce que Netflix mettra en ligne dès vendredi et samedi 12 de ses films de François Truffaut et vous n'avez pas trouvé Laurie Tillman qui est présente. Écoutez, c'est deux bonnes réponses. Je crois que c'est mal parti, mais à moins que ce soit un désastre pour le prochain candidat, on va voir. Bonjour Georges.
Bonjour Anne et bonjour à l'équipe.
Bonjour Georges.
Alors Georges, vous avez 60 ans, vous habitez Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques et vous êtes routier.
Oui. Anglette.
Anglette, pardon. Et vous êtes routier? Et là, en ce moment, vous êtes sur les routes, en fait. Vous continuez à travailler?
Dans le Cantal.
Vous avez rencontré votre femme en mai 79, en passant le permis de conduire, c'est-à-dire elle était inspectrice?
Non, elle a passé le permis avec moi, avec un autre école, et puis on s'est vus. Voilà, et puis voilà, à partir de là...
Vous n'êtes plus jamais quitté.
On s'est plus quitté.
Ça, c'est beau, parce que vous avez 3 enfants et 3 petites filles.
Trois petites filles, oui. Abigail, Déborah et Mila, que j'embrasse très très fort. Qui me manque.
Ah, on va être content.
Ouais,
vous pouvez pas les voir, bien sûr. Et vous avez un gros camion?
Ah oui, les gros, comme vous en parlez quelques fois. Ouais, des gros, les 44 tonnes. Hein.
Mmh. On dirait des paroles d'un film bizarre, là. Il est gros comment, ton camion?
c'est le plus gros, quoi. Enfin,
et c'est le calendrier de qui dans la cabine?
Alors, personne. Il y a un petit calendrier de... un tout petit calendrier du...
Oui, votre femme écoute.
Il a juste un petit calendrier qui lui a été offert par le diocèse. Je vois pas quoi tu parles.
Oui, parlez-nous de ce calendrier, Georges. Sinon, vous n'êtes pas un vrai routier si vous n'avez pas de calendrier.
C'est un calendrier, ça va vous décevoir, de Plaza, vous savez.
Stéphane Plaza?
Ouais,
Stéphane
Plaza.
Écoutez,
ça nous déçoit pas.
Chacun ses goûts, on n'est pas là pour juger. Alors.
Voilà, on n'est pas là pour juger.
j'ai jamais eu de calendrier comme ça. Non, jamais. Mmh.
C'est pas... Alors, Georges, vous jouez avec qui?
Alors, je vais jouer avec le bobo du 18e.
Ménage.
Très bien. Avec plaisir.
Attention. Top chrono.
C'est une chanteuse américaine qui s'est fait connaître en partie pour avoir une robe en viande.
Lady Gaga.
Oui, c'est ça. C'est un acteur des Bronzés qui disait il y a moyen de conclure, etc. Dans les Bronzés, sur un malentendu, je vais conclure.
Ouais.
L'acteur, c'est pas noir, c'est pas noir, c'est l'autre couleur.
Ah oui, Michel Blanc.
Ouais, super. C'était un groupe qui avait les Beatles et les. Dans le rock. Super. Il présente Qui veut gagner des millions, danser avec les stars. C'est un jeune animateur qui est arrivé sur TF1 depuis 2 ans. Il était avec Cyril Hanouna. C'est une actrice rousse très jolie américaine. Elle jouait dans Coup de foudre à Notting Hill et elle m'a mis 2 râteaux. Julia Roberts. C'est pas grave. Mais ça fait 3 quand même.
3 bonnes réponses.
C'est pas pareil à la radio,
quand
c'est vrai.
Quand on le fait tout seul, c'est plus facile, évidemment.
Mais la
victoire
n'a pas la pression.
Bravo! Un petit cri de joie?
Ouais! Attendez, bougez-moi, je vais klaxonner.
Ouais, carrément! Bravo!
Merci.
Bravo Georges. En cette période particulière, le groupe SEB, référence mondiale du petit équipement domestique, continue de vous accompagner pour faciliter votre quotidien avec le cuiseur vapeur Steam Up de Moulinex, fabriqué en Bourgogne à Is-sur-Til. Ce produit made in France révolutionne la cuisine à vapeur grâce à sa technologie innovante et brevetée. Elle va être contente, votre femme, là?
Ah, tout à fait, oui, en plus, tout à fait. Et puis, je vous remercie de votre émission parce que c'est vraiment, ça met du baume au cœur. Vraiment, vraiment.
Ah, c'est gentil. Je sais qu'il y a beaucoup de routiers qui nous écoutent. Il y a beaucoup de routiers qui nous écoutent, on les embrasse.
Vous êtes tous sympas et c'est vraiment un plaisir de vous écouter tous les jours.
Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Georges. Merci. Alors Aurélie,
oui.
Vous avez quand même gagné un lot de consolation qui n'est pas rien. Vous avez gagné un coffret de 12 sachets de chocolat Réauté Chocolat, chocolat croustillant praliné Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français depuis 1954, est à vos côtés pour vous offrir des plaisirs simples et authentiques avec ses chocolats incontournables, des biscuits savoureux. Plus d'infos sur réauté-chocolat.com. Réauté Chocolat, goûtez, vous verrez.
Merci beaucoup. Mes enfants vont être contents.
Oh là là, mais on sent qu'elle est déçue.
Merci.
Ben oui, mais on peut pas offrir deux cadeaux, Aurélie. Vous rejouez avec nous d'ici.
Non, je comprends bien. Vous inquiétez pas.
Vous rejouez avec nous d'ici un mois, parce que je vous sens un peu déçue. D'accord?
Je vais y arriver un jour.
Mais oui. Pourquoi c'est la deuxième fois?
Eh oui, ça fait déjà deux fois que je perds. Alors bon, c'est pas
grave. Bah jamais 203. Ouais. Allez, vous rejouez avec nous d'ici le mois de juin. La troisième fois sera la bonne. Et ne me choisissez pas, Aurélie. Ne me choisissez pas.
Oh, le bel aveu.
Bonne journée à vous.
Je vous embrasse et bon courage pour la suite de ce confinement. On vous embrasse. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga, Christine Mérou, Ben H et notre invité par téléphone, Frédéric Lenner, PDG de l'entreprise Lenner Cordier, spécialisé dans le prêt à porter qui s'est lancé dans la fabrication de blouses et de masques de protection. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël Quiroga, Christine Bérou, Ben H. Alors, vous voyez, les auditeurs retiennent vos surnoms. Hein. Le monsieur a dit Ben H, le bobo du 18e. Christine Bérou, on va dire la chaudasse
la
de Montreuil.
La chaudasse de Montreuil. La chaudasse du 9-3.
Mickaël Quiroga.
Oui.
Mickaël Quiroga. Ah. Vous êtes remonté ou ça va pas? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis un petit peu remonté. Je voudrais dire un petit mot quand même sur la communication des autorités, parce que j'ai beau y mettre de la bonne volonté, je trouve pas ça hyper clair. Ils ont beau m'expliquer.
Je comprends pas. Non, je comprends rien.
Ça a commencé, souvenez-vous, par il faut pas sortir de chez nous. Mais si, en fait, on peut aller sortir pour aller voter. Mais en allant voter, faut pas s'asseoir sur un banc pour prendre le soleil. Et en fait, non, finalement, ils ont dit qu'on devait rester confinés, ne croiser personne. Mais il fallait quand même aller bosser. Oh, alors, ceux qui peuvent pas bosser de chez eux comme nous, comment ils font? Les moniteurs d'auto-école, par exemple, comment ils vont donner leurs cours? À distance, sur PlayStation, avec Mario Kart? Non, les masques, c'est pareil. D'abord, ils nous disent qu'il n'en faut pas. Après, à partir du 11, ça sera peut-être obligatoire. Moi, je me souviens que Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, elle avait dit les masques ne servent à rien, de toute façon les Français ne savent pas s'en servir. Mais qu'est-ce qu'elle croit en fait, Sibeth Ndiaye? Elle croit qu'on les met où les masques? Ils veulent aussi tracer les malades et les suivre et les surveiller avec une application électronique et tout, mais ils sont même pas capables de surveiller le Twitter d'Emmanuel Macron déjà. Le week-end dernier, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le député de La République En Marche, l'ex-REM Joachim Sonforget, qui a usurpé l'identité du président pour faire croire à un remaniement ministériel, avec Cyril Hanouna comme Premier ministre et Bouba à la culture, véridique. Hein. Moi, ce député m'inquiète, franchement. Joachim Sonforget, JSF. C'est les mêmes initiales que Je suis fou, quand même. Monsieur Sonforget, je crois que votre taxi est arrivé. Alors, nous, on a besoin de clarté, mais pour l'instant, c'est flou. Après le 11 mai, ils veulent rouvrir les écoles et les collèges et les lycées, mais pas les universités. En fait, je comprends bien que rouvrir les écoles permettra de remettre les parents au boulot. Hein, voilà. Puis, et tant qu'à faire, qu'ils bossent plus pour le même prix, voire pour moins cher. Et s'il y en a qui veulent payer pour travailler, le MEDEF est preneur. En revanche, les bars, les salles de spectacle ne rouvriront pas le 11 mai pour pas être au contact. Voilà. Mais on pourra prendre le métro avec un masque, s'il y en a. En plus, nous, ça nous arrange pas, parce qu'on faisait tous du seul en scène. Vous allez voir qu'à la longue, on va se retrouver à faire du seul en salle. Alors, moi, ça va, j'ai l'habitude, hein, je suis pas trop dérangé par le succès. Mais la patronne, ça va lui faire un choc, quand même. Ben non, j'ai rien compris, parce qu'en plus, tout ça, c'est a priori, c'est si on respecte tout bien comme il faut jusqu'au 11 mai, si on continue d'éviter les autres, si la courbe redescend, si on a des masques, si on a des tests, si la Lune est alignée avec Saturne, et si ma tante en avait, enfin bref, avec des si, dans Paris, ça roule. Hein. Donc, mais rassurez-vous, cette crise prendra fin tôt ou tard. Il paraît que ce sera pas la vie d'avant, mais après tout, ce sera quand même la vie.
Oh, c'est déjà pas mal.
Belle conclusion.
Chaque jour dans cette émission, nous recevons un invité qui fait du bien à travers des initiatives solidaires. Aujourd'hui, c'est Frédéric Lehner, PDG de Lehner Cordier, maison familiale spécialisée dans le manteau et le prêt-à-porter féminin, installée à Hasbrouck dans le Nord. Et après avoir fermé à cause de l'épidémie de coronavirus, l'atelier a rouvert pour fabriquer des blouses et des masques de protection. Bonjour Frédéric Lehner.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors comment ça s'est passé cette idée? Pourquoi avoir décidé de fabriquer des masques?
Tout simplement, le problème s'est posé suite après les annonces du confinement. On a dû mettre notre personnel au chômage et en télétravail. Ce n'est qu'après quelques jours de réflexion, on s'est dit qu'il fallait absolument se mobiliser. On avait la matière première pour lancer des masques et on a réappelé tout notre personnel pour se mobiliser sur ce sujet.
Et là, vous avez fait des masques en tissu. Est-ce que vous avez une homologation? Parce que c'est toujours le problème avec les masques en tissu.
Alors, ils ne sont pas en tissu. La première génération de masques qu'on a faite sont en polypropylène, c'est un peu technique, mais c'est une matière qui a été homologuée par la direction générale de l'armée. Et donc, on travaille sur un mal tout à fait homologué.
D'accord, donc en fait, c'est équivalent des masques en papier qui sont dans les hôpitaux. C'est équivalent des masques FFP1.
Oui, de niveau 1 ou de niveau 2 à usage non sanitaire.
D'accord. Et donc, ces masques-là, vous en produisez combien?
Alors, jusqu'à présent, nous en avons produit plus de 100 000. Nous en produisons sur un rythme de 5 à 6 000 par jour. Le problème, c'est qu'on est à court de matières premières. On est en train de trouver des matières de remplacement qu'il va falloir faire réhomologuer. Donc, on est sur un programme de fabrication très important pour les prochains jours jusqu'à la fin du mois de mai.
Et là, justement, par rapport au masque, vous dites que le prix de fabrication s'élève à 2 euros pièce et vous les donnez. Donc, c'est en plus, vous faites pas payer masques-là. C'est formidable.
Attention, je vais corriger un tout petit peu. On a commencé par les donner, effectivement. Après, il est compliqué de donner quelque chose quand on a des salariés à rémunérer, etc. Donc, on a fait une opération solidaire à prix coûtant. Mais effectivement, dès lors qu'on a des salariés, on peut pas donner la valeur du travail. Un jour, il va falloir la reconnaître en France. Et c'est un peu ce qu'on a perdu. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la valeur du travail dans les biens de consommation? C'est important de reprendre conscience. Et qu'effectivement, nous l'offrons à 2 euros. Il n'y a pas de marge, il y a simplement un coût, un prix de revient.
Mais est-ce qu'on peut imaginer...
De toute façon, c'est pas si cher, parce qu'en plus, ce sont des masques qui sont lavables, en plus.
Alors, ce sont des masques qui sont lavables. On est en train de lancer, j'allais dire, une deuxième génération de masques qui, eux, seront en tissu plus une membrane à l'intérieur, qui seront un peu plus sexy, si je puis dire, qui sont destinés justement à l'après-confinement et qui soient plus sympas à porter, plus jolis, plus esthétiques. Je vous rappelle qu'on est dans le métier de la mode, on ne se refait pas.
Hein. Et on peut les laver combien de fois, en fait, ces masques en tissu?
Alors, les masques en polypropylène, la première génération, on les lave 4 à 5 fois. En tout cas, ils sont homologués pour ça. Et les prochains seront lavables une vingtaine de fois parce qu'ils seront lavables comme un vêtement, tout simplement, dans un textile, donc au moins une vingtaine de fois.
Alors, Frédéric Lehner, vous lancez aussi la fabrication des surblouses, parce que quand c'est surblouses jetables, c'est une catastrophe, il n'y en a plus du tout dans toute l'Europe. Et là, ça fait 15 jours que vos équipes se mobilisent pour faire des kits de surblouses jetables. Expliquez-nous.
Alors, je vais vous dire, ça fait même un mois. En fin de compte, on a été confronté à un cri d'alarme de l'hôpital de notre ville à Hasbrouck, qui m'a invité à venir prendre conscience du problème du manque de blouses, particulièrement sur des blouses à usage unique, qui sont des blouses en non-tissé jetable. On a décidé de mettre en point le patronage, de voir dans quelle mesure on pouvait répondre à leurs demandes, et n'ayant ni la capacité, ni la capacité de production pour le faire, ni l'équilibre économique pour le rentabiliser sur notre site, on a décidé de mettre en place un kit d'assemblage. Donc nous découpons les blouses sur nos coupeurs industriels, nous mettons à disposition un tutoriel et nous avons fait appel à des bénévoles. Ça s'est fait d'abord autour de notre région et puis ça a pris dans toutes les régions de France, puisqu'aujourd'hui nous livrons des kits au CHU de Nantes via votre association Solidarité avec les soignants. Nous sommes en rapport avec la Fondation des hôpitaux de Paris, Maison de femmes, enfin tout un tas d'associations qui sont solidaires de ce mouvement. Et bien sûr, les hôpitaux de notre région.
Vous en avez produit combien des surblouses comme ça, Frédéric Lehner, des kits?
Aujourd'hui, nous en avons produit 50 000 en kits. Ouais. Elles sont assemblées par des bénévoles. Donc c'est compliqué parce que le rapport aux bénévoles, c'est pas une économie sur laquelle on peut se reposer. C'est très bien pendant un temps court, mais ce n'est pas un modèle économique durable. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de pérenniser ce modèle-là de façon à ce qu'il puisse répondre aux besoins clients des hôpitaux.
Comment vos employés réagissent à cette initiative solidaire ? Ils sont fiers de faire ça ? Comment ça se passe ?
Alors les personnels sont très très fiers, autant que je suis fier d'eux aussi. C'est quelque chose qu'on partage. On est dans une solidarité au sein de l'entreprise qui est assez fantastique à remarquer. Chacun est dans son rôle. Franchement, il y a un enthousiasme très très fort. On fait des heures sup, on fait travailler le samedi matin. Les gens viennent vraiment de très très bon cœur. Ils donnent vraiment un sens à leur travail. Je crois que véritablement le rapport au travail, dès lors qu'il a un sens, il devient quelque chose de très épanouissant.
Merci Frédéric Lenner pour ce témoignage et bravo.
Merci, bravo.
Merci bravo. À vous. Merci. Au revoir.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Béroux, Ben H, Mickaël Quiroga et notre invitée, la sexologue Catherine Solano, qui vient de sortir le grand livre de la puberté aux éditions Robert Laffont. Vous n'êtes plus en puberté, Christine, vous êtes en quarantaine. Et qui nous donnera des conseils pour entretenir le désir quand on est confiné en couple.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Christine Béroux, Mickaël Quiroga, Ben H. Alors Christine Béroux, vous vouliez nous parler d'un nouveau programme télé que vous venez de découvrir.
Oui, alors il faut savoir que moi j'ai jamais trop regardé la télé, donc je rattrape le temps perdu et je viens de découvrir un tout nouveau programme qui s'appelle Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un mélange entre Fort Boyard et Alerte à Malibu. Vous voyez, vous savez Fort Boyard avec des gens qu'on enferme dans des cellules. Voilà, c'est eux qui ont inventé le confinement avec un vieux monsieur qui parle avec des énigmes et des indices. Il l'appelle Père Fouras et nous on l'appelle Édouard Philippe. Et donc Koh-Lanta, ça se passe sur une île. Il y a deux équipes, les rouges et les jaunes. Bon, jusque là c'est comme Puissance 4. Mais là, il y a des plages, des caméras, des trahisons, des gens qui ont très faim et un tapis rouge. Ah non, pardon, ça c'est le festival de Cannes. Koh-Lanta s'est présenté par Denis Brognard, dont le boulot, c'est de parcourir le monde pour animer des jeux de plage, dont la célèbre épreuve du poteau. Et je peux vous dire que Denis Brognard, il a vu plus de poteaux dans sa vie que moi dans... Bref, Denis Brognard, il adore foutre la merde. À la fin de l'émission, quand tout le monde est autour du feu de camp, tout va bien, et tout d'un coup, il dit « Dites-moi Jean-Paul, Véronique, elle a pas été très sympa avec vous pendant l'épreuve d'immunité. » Alors que Jean-Paul, il avait complètement oublié. Et alors, quand Denis, il voit qu'il a réussi à foutre de la merde, il fait toujours le même bruit.
Ah
voilà. On dirait moi quand je simule. Voilà, alors j'espère... Non mais je sais qu'il fait pas que ça. Denis Brognard, il félicite aussi super bien les candidats à l'arrivée des parcours du combattant. D'ailleurs, il paraît que c'est lui qui accueille tous les soirs Olivier Véran chez lui. Voilà. Cette année, Koh-Lanta, c'est l'île des héros. Ils ont appelé ça comme ça. Alors, on pourrait penser que c'est une île avec du personnel soignant. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des anciens candidats et des candidats très atypiques, dont Sam. Sam a 18 ans, soit l'âge de l'émission. Le coup de vieux, c'est cadeau. Et toute sa vie, il s'est préparé à Koh-Lanta. Toute sa vie, depuis qu'il est tout petit, il pense qu'à ça, il ne parle que de ça. Et c'est marrant parce que moi, je suis née la même année que l'émission Gym Tonic et... Exactement, oui. Mais je pourrais pas. Moi, je vais vous dire, je pourrais pas participer à Koh-Lanta parce que l'autre jour, la récompense de l'épreuve de confort, c'était du poulet rôti. Et moi, je suis végane, donc pour moi, du poulet rôti, c'est pas l'épreuve de confort, c'est l'épreuve de deuil. Et alors, quand ils gagnent de la bouffe, ils invitent quelqu'un à la partager, et là, ils pleurent d'émotion. Et moi, je me dis, waouh, elle pleure d'émotion parce qu'on l'invite à manger, mais elle est célibataire depuis combien de temps? Donc voilà, j'aime beaucoup Koh-Lanta. Et j'aime beaucoup Koh-Lanta, c'est une belle découverte. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre émission toute nouvelle, The Voice. Qu'est-ce que tu en penses, Denis?
Ah!
Merci, Denis.
Bravo.
Sacré Denis.
On embrasse Denis Brognard, qui est venu dans notre émission il y a 2 mois et qui était un invité tout à fait adorable.
Europe 1, Anne Romanoff.
Alors, chaque jour dans cette émission, on vous accompagne dans votre quotidien de confiné. Aujourd'hui, on va parler sexualité avec Catherine Solano, médecin sexologue depuis une vingtaine d'années, qui vient de sortir le grand livre de la puberté aux éditions Refaire à la Fond. Bonjour Catherine Solano.
Bonjour à vous Anne.
Quel conseil vous donneriez, Catherine Solano, aux couples confinés ?
Alors déjà, c'est de garder des contacts extérieurs personnels de manière à avoir des choses à se raconter. Vous voyez, appeler sa meilleure copine, son meilleur pote, sa famille, pas forcément ensemble tout le temps. Ça, je pense, c'est important. Peut-être aussi décaler ses horaires. Par exemple, un se lève plus tôt le matin pour avoir une heure tranquille tout seul quand on a besoin de moments seuls. Hein. Ou se coucher une heure plus tard si on a besoin de moments seuls, de manière à être pas tout le temps ensemble. Une chose hyper importante qui me tient beaucoup à cœur, c'est de rééquilibrer, d'organiser les tâches ménagères. Parce qu'il y a des études qui montrent que c'est le premier point de conflit dans les couples. Et comme c'est souvent les femmes qui font les trois quarts, disons à peu près, hein, c'est à peu près ça les chiffres, ben elles en ont ras-le-bol et ça ne favorise pas du tout l'intimité quand on n'en peut plus de son conjoint et qu'on est un peu son esclave. Donc ça bloque beaucoup le désir sexuel.
Donc pour relancer le désir sexuel quand on est confiné, Catherine Solano, il faut faire le ménage en fait, c'est ça que vous nous dites.
Exact, il faut que les hommes fassent le ménage. Vous savez qu'il y a même un livre qui s'appelle Photos érotiques pour femmes. Et ben c'est un homme qui passe l'aspirateur, un homme qui lave les tableaux, un homme qui...
Vous, Catherine Solano, vous êtes confinée avec qui ou à quel endroit ?
Alors, je suis confinée en région parisienne, en banlieue, et je suis confinée avec mes enfants. Donc, je ne suis pas avec mon conjoint qui est loin, en fait.
Ah, alors comment on fait pour gérer sa sexualité quand le conjoint n'est pas là ou quand on n'a pas de conjoint
ou quand on n'a pas de conjoint, effectivement, comme Christine, oui. Je vous écoute.
Alors, moi, ce que je conseille à mes patients qui sont seuls et qui me disent « je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un », c'est tout simplement de se dire « quel est le type de personne qui me plaît ?» Et où ce type de personne peut-il se trouver ? Je dirais que
Bradley Cooper,
dans les
à
bars.
Hollywood.
À Hollywood. Ah ben, ça dépend. Disons que il y a des personnes qu'on a plus de chances de rencontrer que d'autres si on met la barre.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faudrait qu'elles arrêtent de penser à Bradley Cooper et un petit peu commencer à penser Gérard Jugnot. Tu vois.
C'est
ça. Je pense.
C'est possible.
On n'a pas parlé de votre livre, de la grand livre de la puberté, en quelques mots avant de se quitter, aux éditions Robert Laffont.
Ben pourtant, il est formidable ce livre, parce que je suis très étonnée que les gens qui le voient, même qui ont 25 ans, me disent « je vais me l'acheter ». C'est un livre qui est illustré par une illustratrice de manga, donc c'est chouette pour les collégiens, je trouve, et puis j'espère que beaucoup de personnes en bénéficient.
C'est pour les garçons et les filles. C'est pour les garçons et les filles, le grand livre de la puberté.
Et beaucoup pour les garçons, parce qu'on leur explique rien du tout, encore moins qu'aux filles, parce que les mamans montent beaucoup plus au front que les papas pour ça, hein, voyez.
Oui, donc les mamans communiquent avec leurs filles, sur la sexualité, mais les papas ne disent rien à leurs garçons, en fait, c'est ça que vous dites.
Voilà, voilà, exactement, et je dis aussi, c'est pas énormément sur la sexualité, ce livre, c'est plus sur la puberté, c'est-à-dire sur les changements du corps, aussi sur les changements du désir, aussi sur la masturbation, par exemple, mais pas sur les relations sexuelles. Parce que c'est pour un livre pour avant les premières relations sexuelles, vous voyez, sur les collégiens, à l'âge du collège.
On conseille à tous les collégiens, à tous les parents de collégiens, de se procurer le grand livre de la puberté. Tout est expliqué, tout est détaillé, c'est illustré en bande dessinée et c'est très facile d'accès. On apprend plein de choses très utiles. Merci Catherine Solano d'avoir été notre invitée.
Bonne journée à vous.
Merci, à bientôt.
Et bonne suite. Bonne chance pour la suite de ce confinement.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, la dernière partie, et c'est l'animateur Arthur pour son émission Show Must Go Home, chaque jour à 16h30 sur les réseaux sociaux, qui sera notre invité par téléphone.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Christine Bérou, Mickaël Quiroga, Ben H. Et notre invité par téléphone, qui est un des présentateurs les plus emblématiques de la chaîne F1, autoproclamé animateur le plus con de la radio dans les années 90. Il a su garder intact son dynamisme et sa fraîcheur. Avec lui, tout est permis et pas seulement le vendredi. Loin de se laisser abattre par le confinement, il a décidé, comme tout boulimique de travail qui se respecte, de se réinventer et de présenter tous les jours à 16h30 sur les réseaux sociaux The Show Must Go Home. Applaudissements nourri et confiné pour Arthur. Bonjour Arthur.
Salut.
Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, première question.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Comment se passe ce confinement, Arthur? Vous êtes confiné dans une maison avec un jardin, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux?
Ouais, je suis confiné chez un copain à la campagne. Et ouais. Ça se passe très bien. J'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis confiné. Je trouve ça un peu long, là. Ça commence à être un peu long. Jamais autant bossé quand arrive la fin de la journée. Je me dis, mais déjà.
Pendant ce confinement, Arthur, on peut vous retrouver tous les jours à 16h30 sur Facebook, Instagram, YouTube, dans un programme intitulé Show Must Go Home, composé des meilleurs moments de votre émission. C'est votre télétravail à vous, sauf que la télé, c'est vraiment votre travail ou pourquoi vous avez fait ça? Parce que ça vous passionne? C'était une nouvelle manière de communiquer avec les gens?
Alors, il y a trois raisons. La première, c'est que je me suis dit, si je fais pas quelque chose, je vais devenir fou, en plus de gérer mes activités. La deuxième, c'est que le confinement est tombé le jour où on devait tourner une très grosse émission de télé qu'on prépare depuis 2 ans, qui s'appelait District Z avec des zombies. Et mes équipes étaient totalement déprimées. Et je leur ai dit, vous savez quoi, on va faire de la télé, on va s'amuser ensemble et on va faire comme si de rien n'était. Et c'est surtout la première raison. Et puis, pour terminer, la dernière chose, c'est que quand tout va bien, moi j'ai la chance d'avoir un public qui m'accompagne depuis des années. Et là, j'ai tout de suite compris que ça allait mal. Et je me suis dit, c'est à moi d'être là pour eux. Donc au moins pendant 1 heure, chaque jour, les gens se marrent et on leur change les idées. Alors au début, on était, je faisais ça avec un pauvre iPad de chez moi sans avoir la fibre. Et aujourd'hui, ouais. Ça s'est professionnalisé. Maintenant, on est diffusé sur TF1. Mais chaque jour, on a entre 500 000 et 700 000 personnes sur les réseaux sociaux qui regardent l'émission, ce qui est assez énorme. Et sur TF1, on a fait 1 million maintenant à minuit. Donc
on a créé TF1 un nouveau format. Minuit un nouveau format que vous avez inventé finalement. Le vendredi soir, à minuit, on peut voir Arthur dans son jardin en fait. C'est tout dans le jardin ou c'est vous rentrez à l'intérieur?
Non, c'est dans une pièce. J'ai posé sur un piano la caméra et c'est dans le salon en fait.
Vous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez retrouvé la fraîcheur des débuts quand vous faisiez de la radio libre où vous pouviez raconter n'importe quoi? Vous aviez une liberté.
Ah ouais.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé
ça? Ouais. D'abord, à deux points de vue. Le premier, c'est que comme je suis très hypochondriaque, tu le sais, Anne, j'ai interdit quiconque de rentrer chez moi, donc on ne m'a pas envoyé de technicien pour installer le matériel avec lequel je fais l'émission. Donc je me suis retrouvé, comme dans les années 80, à quatre pattes avec des prises multiples à essayer de brancher des trucs. Donc ça, j'avais l'impression que François Mitterrand venait de légaliser la radio libre. Et pourtant, j'ai réussi à installer avec ma femme, mes enfants, on a branché le truc, ça c'est la première chose. Et en termes de liberté, c'est vrai qu'il n'y a aucune pression, puisqu'il n'y a pas de pression ni d'audience, ni de publicité, ni de quoi que ce soit. Donc je retrouve mes premiers amours qui sont ce que j'ai fait pendant des années chez vous à Europe, c'est-à-dire la déconne pure, sans limite, sans filtre, sans rien. Et je crois que les audiences, mais on s'en fout des audiences, sont là pour montrer que les gens ont envie de ça, quoi. Donc moi, je suis en train de renouer. Et puis j'ai l'impression que mon public me découvre dans le sens où ils m'ont vu sans maquillage, sans coiffure, sans vêtements.
Oui, mais alors justement, vous aviez pas peur de ça? Parce que moi, je sais que des fois, je fais des Skype et j'essaye de me maquiller, de me coiffer, mais c'est pas du tout pareil que quand
prépa.
On est fait par des. C'est pas du tout pareil que quand ce sont des professionnels. Il y a quand même, c'est vrai. Hein, et du coup, il y a des fois.
Franchement, le premier jour, ma femme m'a gentiment aidé à me maquiller. Deuxième jour, ça m'a épuisé. Maintenant, j'ai lâché l'affaire. J'ai juste un petit truc, c'est qu'on m'a dit, on m'a recommandé de mettre la caméra un peu plus haut, ce qui fait qu'on personne s'aperçoit que j'ai un double menton pour l'instant.
Ben H, je veux dire une question pour Arthur.
Oui, Arthur, moi, je vous suis sur Instagram et je vous vois régulièrement dans Show Must Go Home. Et sur les toutes premières émissions, je me suis souvent posé la question, vous avez aussi fait installer un décor penché chez vous, c'est juste que vous ne saviez pas cadrer?
Je ne savais pas cadrer.
Okay,
je
ne
savais pas cadrer. Non mais il y a un truc qui est ouf, c'est que moi j'ai la chance d'avoir depuis toutes ces années les meilleurs réalisateurs en télé, les meilleurs chefs-op pour la lumière. Vous êtes tous venus sur mes plateaux, vous avez vu ça. Et là, j'ai les grands patrons qui m'appellent, le patron de la lumière qui m'explique par FaceTime comment mettre une lampe de chevet pour m'éclairer le visage. Ou comme mon réalisateur, j'ai Didier Frogny et il me dit, écoute, ton iPad, essaye de mettre un bout de scotch pour qu'il aille vers la gauche. C'est un truc de dingue, c'est génial. Et je me demande si j'ai pas envie que ce soit tout le temps comme ça. Ça me fait très bizarre de revenir sur un plateau avec 15 caméras, un bordel et tout, alors que là, je suis tout seul. J'ai pas d'oreillette, ils envoient des textos à ma femme elle écrit sur une feuille et ma fille elle va mettre la feuille
voilà. À l'ancienne. Le truc à l'ancienne.
C'est vraiment.
Mais c'est bien.
C'est tout juste si on m'a pas envoyé un pigeon voyageur, mais c'est génial. Et alors, les gens aussi, quand vous parlez de vérité, les gens ont découvert que je suis un peu dégarni. Pas beaucoup, mais un petit peu, ça commence au-dessus de la tête. Parce que régulièrement, je baisse la tête pour aller sur mon iPhone pour envoyer la musique de Spotify dans l'émission. Et donc, quand je baisse la tête, la caméra prend mon truc. C'est les trucs, en temps normal, ils auraient arrêté le tournage pour me dire « Oh là là, on a vu que t'es un peu dégarni, mais là, j'en ai plus rien à foutre, j'ai lâché l'affaire. Donnez-moi 15 jours, je suis en claquette,
open bar,
claquette caleçon et voilà quoi. »
Donc Arthur, si on veut suivre votre émission, c'est tout, on se connecte sur votre Instagram, sur votre page Facebook, il y a une chaîne YouTube, sur tout ça, c'est diffusé
ouais,
en même temps,
exactement.
C'est ça?
Exactement, on a un réalisateur qui arrive à balancer tout ça en même temps, Insta, Facebook, YouTube, et vendredi sur TF1 après Koh-Lanta. Tout ça avec un iPad. Non mais je voudrais remercier vraiment les artistes, c'est très important, parce que les artistes qui ont dû annuler leur tournée, leur spectacle, leur one-man show, tout ça, ils sont quand même au bout du rouleau, hein, parce que moi j'ai la chance d'avoir plein d'activités, mais quand tu fais du one-man et ça s'arrête d'un coup, bah, tu te retrouves chez toi confiné. Et donc ils ont tous répondu présent, et ça c'est vachement important. Et ça permet aussi de maintenir un lien avec leur public.
Et
d'ailleurs, on prévoit une énorme fête de fin de déconfinement, voilà. Et puis surtout, chaque jour, on a installé sur notre page Facebook un petit bouton, je profite d'occasion, où on peut cliquer et faire des dons. Et là, cette semaine, on a récolté près de 15 000 euros pour la Fondation des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris.
Bravo.
Donc on est super contents. Donc. Voilà, on arrive à faire l'utile et l'agréable. Voilà, bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux en télé, mais je m'éclate tellement, si vous savez.
Merci beaucoup Arthur, on rappelle donc votre émission Show Must Go Home, tous les jours à 16h30 sur Facebook, Instagram, YouTube et tous les vendredis à minuit sur TF1.
Merci, prenez soin de vous.
Merci, au revoir.
Aussi.
Merci Arthur.
Merci.
Tout de suite le journal de la rédaction et la France bouge avec Raphaël Duchemin. On se retrouve dès demain à 11h sur Europe 1.